Et ce journal est préparé et présenté par vous, Sarah Patel, bonjour.
Bonjour Julie, bonjour à tous. Elle arrive aujourd'hui dans notre département, la ministre déléguée à l'accessibilité des personnes handicapées, Isabelle Saura. Son but, sensibiliser les acteurs privés et parler aussi du handicap à La Réunion. Ce sont des personnes qui, même si elles sont en fauteuil ou malvoyantes, ont bien du mal à entrer dans des boutiques, à faire tout bonnement valoir leur droit à être prioritaire. C'était le sujet du baromètre. Le 1er mai, hier, 700 personnes dans la rue, élus, syndicats qui ont causé retraite, paix, inflation. Mais concernant ce 1er mai, qui est avant tout la fête du travail, posons-nous une question. Y a-t-il vraiment de l'emploi sur notre île? Pour certains auditeurs, la réponse est non, parce qu'il y a trop de pistons. Une école incendiée cette nuit à Saint-André, ça s'est passé à l'entrée d'une petite école, l'école Harry Payette. Des individus cagoulés auraient mis le feu. L'école aujourd'hui est fermée. La voiture électrique, est-ce que c'est une bonne affaire? C'est très bien sur le coup, mais quelques années après se pose le délicat problème du remplacement de la batterie. Et ça coûte très cher. Ensuite, on parlera d'une maison de retraite qui cumule les erreurs à chaque repas apporté à ses résidents. Et puis tout le sport, top départ ce soir à Saint-Philippe d'une course juste incroyable. Jour J pour l'Ultra Trail des Géants avec 145 coureurs inscrits. Notez aussi ce rendez-vous qu'on vous fixe cet après-midi sur Freedom. C'est une émission spéciale notaire dans droit de parole avec Madame Aude et Maître Massé. Vous pourrez poser vos questions notariales. 17h-18h, ça se passe au 99 10 00. Et côté météo, nous sommes concernés par une houle de secteur sud. Elle est voisine de 3 mètres ce matin. Météo France a donc décrété et reconduit pour le sud et l'ouest de la Réunion une vigilance vague submersion jaune jusqu'à midi. Autrement, tout comme la veille, sachez que la Réunion se réveille sous un ciel très nuageux. Ce sont des nuages hésitants entre le gris clair et le gris foncé qui laissent les sommets dégagés avec par moments quelques coins de ciel bleu. Un petit point météo complémentaire d'ailleurs. Sachez que le 9e système de la saison a été baptisé cette nuit par Météo France. Il s'agit de la tempête tropicale modérée Idaya, avec un H. Idaya qui est actuellement à 1755 km au nord-ouest de la Réunion, mais à une distance, et c'est important, de Mayotte, de 440 km seulement au nord-ouest. Du coup, Mayotte, les Comores, Madagascar sont directement menacés par ce système qui se déplace vers l'ouest-sud-ouest à la vitesse de 7 km/h. Idaya, donc, est au stade actuellement de tempête tropicale modérée, et Idaya a incurvé sa course en direction du sud-ouest et elle devrait garder cette trajectoire durant les 12 prochaines heures avant de s'intensifier et d'atteindre le stade probable de forte tempête tropicale en circulant au nord de l'archipel des Comores. Météo France demande d'ailleurs aux habitants de se préparer à une menace éventuelle. Des cumuls importants de pluie dans les 48 heures sont attendus donc sur tout l'archipel des Comores ainsi que sur l'île d'Aldabra avec des vagues pouvant atteindre 8 mètres maximum qui sont attendues à partir de vendredi sur le nord de l'archipel des Comores et ensuite ça va se déplacer en fin de semaine le long des côtes tanzaniennes et du Mozambique. Hier, c'était la fête du travail et pour ce 1er mai, manifestation en demi-teinte à Saint-Denis, à peine 700 personnes, alors que l'année dernière, ils étaient 1200 à battre le pavé. Par contre, à Saint-André, la formule pique-nique de la CFDT, qui faisait cavalier seul, a permis de rallier un millier de personnes autour des barquettes et des marmites de Carry. Les organisations syndicales, pour en revenir à Saint-Denis, étaient donc au nombre de 7 hier, entre le jardin de l'État et la préfecture. Il y avait aussi des élus venus faire campagne pour les européennes, comme les membres du PS. Pour la sénatrice Audrey Bélim, les problèmes sont très nombreux à La Réunion et en France en général.
On n'arrive pas à construire la commande publique, on n'arrive pas à la relancer. Le tissu économique reste fragilisé et on vient nous parler d'évolution institutionnelle, on vient nous parler de la réforme de l'octroi de mer. Il y a d'autres sujets, je pense. Les gens, eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est comment je vais faire pour payer mon loyer, comment je vais faire pour nourrir mes enfants, comment je vais faire pour leur apporter un petit peu de bien-être, un petit peu de loisirs, comment je vais faire pour pouvoir bien les soigner. C'est ça la réalité. Je pense que nous vivons d'ores et déjà une explosion sociale. C'est vraiment le calme avant la tempête. C'est une petite résignation. Et cette fatalité, elle peut être très dangereuse à un moment donné. On a des jours comme celui-ci où on peut dire, on peut exiger ce dont on a besoin, ce dont l'on veut, la réunion que l'on souhaite demain.
Et des propos recueillis par Frédéric Rustan. Alors on a pu voir aussi des membres de la France Insoumise, Huguette Bello, Younous Omarjee, que nous allons bientôt recevoir dans une émission face à face sur Freedom, sûrement en fin de semaine. Et derrière tout cet aspect politique, posons-nous une question simple. La fête du travail, bon, c'est bien beau, mais est-ce qu'il y a véritablement de l'emploi, du travail sur notre île? Selon une auditrice, il serait très difficile de trouver un emploi à La Réunion à cause du favoritisme et du système, du phénomène de piston.
À La Réunion, il n'y a pas de travail et il y a discrimination, il y a favoritisme, il y a piston. C'est vrai, il faut être dans la vraie vie de La Réunion. C'est vrai, il n'y a pas de travail pour les Réunionnais. Il y a des gens qui travaillent à des petits postes, pas des postes de responsabilité. Très rare, c'est un Réunionnais en poste de responsabilité à La Réunion. Les maires ne défendent pas. Ils ne défendent pas les Réunionnais. Il faut aller en Martinique, en Guadeloupe, là-bas. Là-bas, ils s'occupent bien des populations.
Il faut qu'elle regarde les choses différemment. Parce que en métropole, il y a beaucoup de Réunionnais qui travaillent aussi. Si on commence pas faire des trucs régionaux, ça veut dire que les Réunionnais qui sont à l'étranger ne pourront pas non plus travailler, ne trouveront pas non plus de travail. Donc, il faut tenir compte de ceci. Le problème du travail à La Réunion, très souvent, c'est que les gens ne sont pas diplômés ou n'ont pas de diplôme. Là où elle a raison, il a du favoritisme, mais ça existe partout. Moi, je suis en Belgique, donc c'est pas un problème. Mais je veux dire par là que si on commence à créer du travail que pour les Réunionnais, dans ce cas, Marseille fera du travail pour les Marseillais, l'Alsace fera du travail pour les Alsaciens, et du coup, il n'y aura plus de mobilité.
Deux ministres sont arrivés dans l'océan Indien. La première, c'est la ministre déléguée aux Outre-mer. Elle arrive aujourd'hui à Mayotte pour décliner le planning des futures réformes qui vont être appliquées sur ce territoire. Aux élus de Mayotte et à sa population, trois députés accompagnent Marie Guévenou. Et sachez que la Réunion, de son côté, accueille à partir de ce matin une ministre, Isabelle Saura. Elle est en charge du handicap et de la question de l'accessibilité. Sa visite aura pour but de sensibiliser les acteurs privés à l'accessibilité de leurs locaux, à des personnes qui sont porteuses de handicap, des personnes qui, si elles sont en fauteuil ou malvoyantes, ont du mal, comme ça, à entrer dans les boutiques ou tout simplement à faire valoir leurs droits. C'est difficile d'être handicapé au quotidien, être intégré, respecté. Voici un extrait du baromètre.
Je suis moi-même dans le cas et souvent, mon handicap ne se voit pas. Les gens me regardent et pourtant, je suis suivie par plusieurs services avec une carte et tout. Pour certaines personnes, quand on est handicapé, il faut que l'handicap y voit. Dans les grandes surfaces, ben, les gens ils regardent bizarrement et disent « ça, il est où ton handicap ?» Même la carte avec la photo, madame.
Pour moi-même, handicapé. Je n'ai pas voulu avoir marche sur main ou marche un cadeau handicapé. Mais les gens, ils regardent de la même façon. Moi, je suis avec un canin. De toute façon, ils ne regardent pas, ils sont trop lèvres, bien sûr. Et tes paroles, comme pas besoin de les paroles, je suis fatigué. Moi, je sors, mais je me prends pile avec Benda. Après, il y en a sorti, c'est les grandes surfaces. M'y arrive, je laisse mon chariot un petit peu bébé sur le côté. Je présente ma carte. Handicapé là, donc à la caisse, et le client devant. Le caissier, il dit, bon, le chariot, il me dit là-bas. Il y a des gens, ils prennent la colère, ils disent, ouais, je suis passé les autres avant.
Moi, je vis avec un enfant handicapé qui est déficience mentale, madame. C'est très, très, très dur. Hein. Il y a des jours, ça va, il y a des jours, ça va pas. Pas facile de vivre avec elle, mon enfant, il prend 7 cachets par jour, madame. Elle est agressive, elle tape les enfants, si elle voit les petits, elle va aller dessus, elle va pincer.
On encourage aux parents, mais à l'enfant aussi, d'avoir un enfant en situation d'handicap, même si c'est un adulte ou un enfant. Dans la société, on est souvent rejeté. Cet enfant, il est né, donc il a manqué d'oxygène à la naissance. Et du coup, son cerveau est complètement atteint, pas rempli de sang, en fait. Tout l'hémisphère gauche ne fonctionne pas. Un handicap est lié à ça. Il est comme un autiste, en fait. Par exemple, à l'école, il a droit à 2 heures d'école par jour. Il y a 15 jours de ça. À l'école, il a été rejeté par son AESH. Il a été violenté verbalement par son AESH. AESH, c'est un aidant.
Je suis moi-même handicapée. Ben c'est vrai, la société nous rejette. Il faut chaque fois prouver qu'on est handicapé. Et ça, c'est pas normal. On n'a pas demandé d'être comme ça. Je suis malvoyante. Handicap, il faut qu'on prouve. Que ce soit chez le médecin, dans le bus, à l'église. Il faut partout, mais partout, on doit prouver qu'on est handicapé. Et c'est pas normal.
Parlons à présent de ce qui est à lire sur freedom.fr, des révélations exclusives au sujet de la SPL estivale. La Chambre régionale des comptes confirme les dérives financières et pointe des dettes de 3,2 millions d'euros. C'est un petit causement signé Yves Montrouge, un petit peu spécial, qui est publié aujourd'hui exceptionnellement un jeudi et pas un vendredi. Il est consacré au rapport de cette Chambre régionale des comptes sur la gestion de la SPL estivale. Alors Yves Montrouge, vous avez épluché soigneusement ce rapport et il est très riche en révélations.
Écoutez, on ne va pas pouvoir évidemment résumer 64 pages de rapport, mais on apprend beaucoup de choses. On apprend que les dettes de la SPL estivale sont évaluées à fin novembre 2023 à 3,2 millions d'euros. On apprend qu'entre 2021 et 2022, le nombre d'agents de la SPL estivale est passé de 102 à 124, que les charges de personnel sont passées de 4,2 millions d'euros à 5,7 millions d'euros. On apprend que les produits et les charges de la société se sont respectivement élevés à 7,9 millions d'euros et à 9,7 millions d'euros, ce qui a conduit à une situation de cessation de paiement, d'où le placement de la SPL estivale en redressement judiciaire depuis l'année dernière. On apprend encore que des travaux du mandataire judiciaire ont permis de mettre à jour des factures et des chèques d'un montant global de 400 000 euros sans aucun lien avec l'activité de la société ou dont la réalité du service n'a jamais pu être établie. Comme vous pouvez le constater, Sarah, ce rapport confirme ce que l'on savait déjà depuis fin de l'année dernière, à savoir une situation financière dégradée depuis 2 ans de la SPL estivale. Il confirme également les dérives financières au niveau de sa gestion, des erreurs manifestes de gestion et une absence quasi totale de contrôle de la gestion en question. Donc il faudra maintenant attendre le rapport définitif pour en savoir davantage.
Merci Yves Montrouge, dont l'article détaillé est sur freedom.fr. Et suite à ce rapport, il y a maintenant mise en place d'une procédure contradictoire pour les représentants de l'ego de la SPL estivale. Ils disposent d'un délai d'un mois, voire peut-être un peu plus, pour présenter leurs observations. À Saint-André, l'entrée d'une école a été incendiée cette nuit par des jeunes cagoulés. L'information nous a été confirmée ce matin par la mairie de Saint-André. La police s'est rendue sur place pour procéder aux investigations. Cette école, tout en bois, toute jolie, hein, dont la photo est également sur freedom.fr, car après le son, vous avez toujours l'image chez nous. Eh bien, cette école reste fermée aujourd'hui. Écoutez le responsable de cabinet de la mairie de Saint-André qui nous explique les conséquences de l'incendie.
Cette nuit, donc, il y a eu un incendie qui s'est déclaré donc à l'entrée de l'établissement. La zone était sécurisée par les services. L'école est dans l'incapacité d'accueillir les élèves ce matin jusqu'à nouvel ordre. C'est un message pour dire aux parents n'emmenez pas vos enfants ce matin. L'école est fermée. La décision a été prise donc de ne pas ouvrir aujourd'hui. La police s'est rendue sur les lieux, a pu effectivement se rendre compte que c'était des jeunes apparemment cagoulés qui ont mis le feu. Donc c'est un acte délibéré, hein, intentionnel. Au moment où je vous parle, donc l'enquête suit son cours. Donc l'entrée de l'école est effectivement clôturée pour que la police puisse mener ses investigations. Donc, et cela nous empêche donc ce matin de recevoir les élèves.
Freedom 8h44, parlons maintenant de la voiture électrique. Est-ce que acheter une voiture électrique, c'est une bonne affaire pour l'environnement? Oui, mais on peut se poser la question quand on entend le témoignage qui va suivre. Écoutez cet homme dont l'ami a acheté une voiture neuve électrique il y a de cela 5 ans. Le hic, c'est qu'aujourd'hui, la batterie, elle est morte et que la garantie est dépassée de quelques mois. Résultat, il doit débourser entre 19 000 et 29 000 euros pour changer la batterie et redonner vie à sa voiture électrique.
J'ai mon ami qui a acheté une voiture électrique, ça fait 5 ans et demi. Là, la voiture, elle est à terre, il n'y a plus de batterie. Et le problème, c'est que maintenant, on lui demande, pour pouvoir remplacer sa batterie, 29 000 euros ou 19 000 euros une batterie reconditionnée.
Ça doit être garanti, il doit avoir une garantie constructeur avec ce délai-là.
Garantie 5 ans et apparemment, maintenant, les voitures de maintenant, c'est 8 ans. Et avant, c'était 5 ans. Mais bon, ben voilà, aucune solution. La voiture, elle est à l'arrêt. C'est bon pour aller à la poubelle. Mais nous, on est en colère parce qu'on dit, en fait, ils font des voitures jetables. Il n'y a pas de solution, ils ne trouvent pas de solution. Donc moi, franchement, je dis aux gens qui ont envie d'acheter une voiture électrique, et là, je pousse un cri fort, ben il ne faut pas faire parce que c'est des voitures jetables, en fait.
Oui, et à la base, c'était censé économiser de l'énergie. D'ailleurs, en parlant d'énergie, des lampadaires allumés toute la journée depuis 2 semaines. On connaît tous en ce moment le phénomène des nuits sans lumière. Ça permet l'envol des pétrels, une opération qui est portée par la CEOR, vous le savez, et qui va durer jusqu'au 3 mai. Mais nous ne savions pas que cela inclut que certains lampadaires resteraient allumés inutilement toute la journée. Et pourtant, c'est ce qui se passe à Champfleury, à Saint-Denis.
Je suis du secteur de Champfleury, au niveau du tribunal, au niveau du centre des impôts. Et ça fait, je ne sais pas, plus de 2 semaines en tout cas, que les lampadaires sont allumés toute la journée. Toute la journée, ils sont allumés, ça fait 2 semaines. Je ne sais pas qui doit gérer ça, mais il n'y a pas un employé communal, un employé du département, un employé de la région. Il n'y en a pas un qui peut se dire, je vais contacter le service concerné pour leur dire d'arrêter les frais, tout simplement. C'est du gaspillage. On nous dit, il faut chercher 10 milliards. Ça commence par là, les économies. par les quelques centaines d'euros d'économie de l'EDF. C'est ça que je comprends pas, c'est qu'on nous dit oui, c'est dur, les temps sont durs, et là on a des lampadaires, au moins 15 ou 20 lampadaires qui sont allumés comme ça, et qui ne servent strictement à rien dans la journée. Il faut bien qu'il y en ait un qui prenne ses responsabilités.
On en vient maintenant à ce gros coup de gueule à propos d'une maison de retraite. Écoutez bien, peut-être que vous allez vous reconnaître dans le témoignage de cette dame. À l'entendre, on mange super mal dans certaines maisons de retraite, en tout cas dans la sienne. Et les problèmes, elle les égrène. Des aliments non cuits, aucune saveur, aucune diversité dans les menus. Cette retraitée ne supporte plus ce qu'elle qualifie de frasque culinaire de sa maison de retraite.
Je suis une dame qui est hospitalisée à la maison de retraite. Ça fait une semaine. À chaque fois que je lui porte des repas pour moi, même ce soir, je ne pouvais pas manger. Hier soir, pareil. Ce soir, il a porté des pommes de terre, elles ne sont pas cuites. L'avant-hier soir, il a porté des poulets sodés, ce n'était pas cuit. Il y avait du sang dedans. Puis avec des frites, ce n'est pas cuit. Presque, il y a trois jours, je ne peux pas manger le soir. Tous les soirs, c'était le même repas. Et le manger, il n'est pas bon du tout. Tous les soirs, je reste sans manger. Et j'ai la diabète. Mais parce que moi, je ne mange pas de viande, pas du poulet. Je ne mange pas de bœuf, je ne mange pas les autres viandes. Et puis, je mange beaucoup de légumes. Voilà. Ce n'est pas logique de donner quelqu'un à manger comme ça. La prison donne mieux à manger.
Et pour finir, allez, on parle un peu de sport avec le lancement aujourd'hui d'une course juste incroyable, l'Ultra Trail des Géants, une course XXL, 164 km à travers la Réunion, 9300 mètres de dénivelé positif. Le coup d'envoi, eh ben c'est ce soir, 18h, donc le Cap Méchant à Saint-Philippe va être noir de monde. C'est assez symbolique parce que d'habitude, c'était depuis le Cap Méchant que s'est lancé le Grand Raid. C'est pour ça qu'on compare un petit peu à cette Ultra Trail des Géants au Grand Raid. Et vous savez quoi, Mathias Ramsay, notre grand sportif y sera. Donc il vous fera vivre en direct le départ de cette course quasi équivalente au Grand Raid, l'Ultra Trail des Géants, avec 145 coureurs qui y participent et qui sont attendus pour les premiers dès demain au stade olympique de Saint-Paul. Passons à la météo.
La météo avec Express Électronique.
La météo avec Express Électronique.
Express Électronique, dépannage télévision Hi-Fi.
Téléphone 0262 28 76 60.
Le 0262 28 76 60.
Aujourd'hui, c'est 50 nuances de gris.
Oh, c'est beau ça. Moi, j'aurais pas dit ça. Bon, ça montre effectivement en fait que vous aimez beaucoup ce film avec Grey et compagnie.
J'ai pas
mais
dit ça.
Oh, ça m'étonne pas. J'en dirai pas plus. Chez moi, c'était plus vieux. Vous savez, c'est la chanson de Goldman entre gris clair et gris foncé. Mais bon, Christian Gris est pas mal aussi.
C'est pas mal. Voilà.
Bon, alors, sachez qu'il y a du gris sur la Réunion aujourd'hui, entrecoupé parfois de petites nuées, de petits rubans de ciel bleu. Ah oui, voilà, on va dire ça comme ça. Nous avons surtout une houle hein, qui nous place en vigilance, forte houle jaune sur le sud et l'ouest du département. L'après-midi, bah, pas de grand changement, toujours du gris avec des nuages d'altitude qui sont là et qui jouent les troubles faites. Côté précipitation, bah, y a rien. Quelques gouttelettes de pluie, mais sans plus. Et le vent, lui, il est là, faible sur l'ensemble du département, nous dit Météo France dans son point météo actualisé.
Merci beaucoup, rendez-vous à la mi-journée.